Vous écoutez Quoi de Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux. Chaque semaine, accompagnée d'une de mes acolytes, on parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Et moi, Anne Lorpineau.
C'est parti !
La question du handicap est souvent oubliée dans l'inclusivité et l'intersectionnalité lorsque l'on parle de genre, de race et de classe. Entre tragédie et résilience, d'autres récits et d'autres luttes militantes sont pourtant possibles autour de la question du handicap. On va en parler cette semaine avec Anne-Laure. Salut.
Coucou Clémentine. Ça va?
Et toi?
Super.
Alors fais-nous un peu le topo des news féministes du moment.
La première news qui commence à être un peu old, puisque ça fait des années que ça traîne, c'est évidemment la PMA pour toutes et tous. Ça a été le bordel au Sénat en ce début de mois de février. Et autant le dire, c'est pas demain la veille qu'on va sortir de ce cauchemar. Bon, pour être honnête, on n'avait pas grand espoir qu'il se passe quoi que ce soit, mais on arrive quand même à être déçus. Il faut croire que la Manif pour tous n'est pas redescendue dans la rue pour rien. D'ailleurs, je les ai croisés au Havre, c'était l'enfer.
Sérieux.
Alors que les sénateurs et sénatrices avaient validé la PMA en première lecture, on s'en souvient, on était un petit peu surprises que ça se passe aussi bien. Bon, ils avaient évidemment limité la prise en charge au seul couple infertile, pour ne pas dire si c'est hétéro. Mais cette fois-ci, les sénateurs et sénatrices n'ont pas réussi à se dépatouiller de l'article 1, qui est pourtant eux-mêmes le principe de cette loi bioéthique, enfin le plus grand principe. Ils l'ont vidé de leur sens en enlevant l'accès à la PMA aux femmes seules. Parce que, je cite, c'est des foyers un peu trop précaires.
Ok, ils ont tout compris.
L'enfer. Et le texte va donc repasser à l'Assemblée, bien sûr, puis retour au Sénat avant d'être promulgué a priori avant l'été, c'est ce qu'a dit le gouvernement. Bon, en tout cas, ça montre bien le mépris indécrottable pour les femmes qui font des enfants indépendamment des figures paternelles. Et ça montre aussi la résistance absolue du patriarcat à céder la place.
La confusion générale hier soir au Sénat, les sénateurs ont dit oui à l'extension de la PMA pour les femmes veuves, mais non pour les femmes seules. La gauche n'a pas voté pour dénoncer le détricotage du texte par la droite.
Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté.
Oui, on continue à être très en retard sur le reste du monde. Et surtout, la politique continue à ne pas comprendre ce qui se passe en fait dans la société. Donc c'est un peu problématique. On parle aussi de précarité menstruelle en ce moment. Ce sont 1 700 000 personnes en France qui en souffrent de la précarité menstruelle et qui manquent de produits d'hygiène intime, selon une étude de l'IFOP pour Don Solidaire en 2019. Donc cette étude Phage-IFOP est assez claire, avec un coût qui est estimé à 7,50 € par mois. 13% des personnes qui ont répondu ont déclaré devoir choisir entre protection et objet de première nécessité. 33% estiment avoir besoin d'aide pour s'équiper. Un étudiant menstrué sur 10 fabrique ses propres protections et une sur 20 utilise du PQ. Donc voilà, il est urgent de s'en occuper. D'ailleurs, on peut aussi faire des dons à des associations comme Règles élémentaires.
Ouais, et bravo à la Phage d'avoir sorti cette étude parce que, encore une fois, les politiques fonctionnent avec les chiffres. Donc, Autre news, Christophe Girard est revenu en grand vainqueur au Conseil de Paris. Donc, on se souvient, Christophe Girard avait été critiqué pour sa proximité et son soutien à Gabriel Matzneff il y a quelques mois. Il était parti avec grand coup d'éclat du Conseil de Paris. Bon, il est revenu la veille même où de nouvelles accusations de violences sur mineurs, en particulier d'inceste, ont visé l'acteur Richard Berry.
Colline a 45 ans. Elle est la fille de Richard Berry et de Catherine Yégel, avec qui l'acteur a été marié dans les années 70, et elle accuse son père de faits incestueux alors qu'elle était mineure.
Et au niveau de la culture, on a retenu aussi le fiasco des nominations pour les Golden Globes. Donc la cérémonie a lieu fin février, notamment parce que la série dont on a parlé ici dans le podcast I May Destroy You de Michaela Coel n'a reçu aucune nomination. On rappelle que les Golden Globes, ce sont les votes des journalistes de la presse étrangère aux États-Unis, donc principalement de vieux hommes blancs racistes et à la ramasse.
Qui ont nominé Emily in Paris,
voilà.
Par exemple. Étonnant.
Tout va bien. Donc pour passer au sujet de la semaine, la question du handicap et du validisme, il est dans l'actualité en ce moment. Peut-être avez-vous vu passer une pétition qui a recueilli plus de 104 000 signatures à propos de l'AAH. Donc c'est l'allocation adulte handicapé qui peut atteindre au maximum 900 €. Elle est aujourd'hui indexée aux revenus du conjoint, c'est-à-dire qu'elle crée une dépendance financière pour les personnes qui sont en couple. Alors ça ne facilite pas la séparation et donc ces personnes demandent de la désolidariser, de l'individualiser et un rapporteur a désormais été nommé au Sénat. Donc on attend la suite des opérations.
Encore une fois, ça ne veut pas dire que ça va être rapide.
Non.
actu aussi parce que le Covid, évidemment, touche les personnes handicapées et la pandémie a renforcé l'isolement de ces personnes. Les personnes à risque, puisque les personnes handicapées sont comptées dans les personnes à risque, enfin pour la majorité, elles sont confinées depuis des mois et elles sont toujours pas prioritaires pour les vaccins. Pour les sourds et les sourdes, la situation est hyper difficile car lire sur les lèvres est rendu impossible par l'utilisation des masques chirurgicaux ou des masques d'ailleurs tout court. Et l'utilisation des masques transparents prévus pour eux et elles reste extrêmement minoritaire. Il est réservé plutôt à des infrastructures spécialisées ou à des crèches, des trucs comme ça. Quant aux étudiants et étudiantes qui ne peuvent pas matériellement accéder aux cours, par exemple pour les handicaps sensoriels, c'est la croix et la bannière pour pouvoir continuer son cursus universitaire. Et pour les plus petits, les parents doivent faire l'école à la maison à des enfants qui ont des besoins spécifiques. Et cette fois-ci, puisque ce n'est pas à l'école que ça se passe, donc ils n'ont pas d'AVS, donc d'auxiliaire de vie scolaire. Et donc l'aide, ou en tout cas l'assistance aux devoirs, se fait plutôt avec des petits bouts de chandelle, quoi. Il faut rappeler aussi que 11 millions de Français et Françaises, dont une majorité écrasante de femmes, prennent soin d'un proche malade ou handicapé ou âgé, en tout cas dépendant. Ils font économiser 11 milliards au système de santé français, ces personnes.
Qui ne les remercie pas.
Voilà. Et c'est les grands, grands oubliés de la crise du coronavirus. Et il faut dire que leur situation s'aggrave. Ils auraient et elles auraient besoin de relais par des professionnels de santé, de jours de congé pour certains et certaines. D'ailleurs, on peut citer que Catherine Laborde et son mari Thomas Stern ont témoigné récemment dans une vidéo Combini. Et cette vidéo est très touchante parce qu'elle montre le vase clos que peut devenir le couple dépendant aidant. Ensemble, ils ont écrit un livre qui s'appelle Amour malade, d'ailleurs.
Cette maladie est une maladie peu commune. C'est une maladie qui s'appelle la maladie de corps de Lévy et qui prend un petit peu chez Alzheimer, un petit peu chez qui ?
Parkinson. C'est une maladie qui t'entraîne des troubles moteurs, des tremblements, perte de la reconnaissance, perte des repères spatio-temporels, état dépressif, somnambulisme aigu, etc., etc., selon la gravité du cas.
Les symptômes, on s'y attend. On est prêt pour la bataille, même, quelquefois. On a ce sentiment fugace qu'on va mener une bataille grâce à Thomas que je pourrais gagner. Non, le pire, c'est la peur.
Mais bon, il faut quand même trouver des petits coins de ciel bleu entre les nuages noirs. Dans un but d'informer tout le monde à égalité sur la pandémie et donner des conseils de santé, la langue des signes a fait une grande percée à la télévision au service des 283 000 locuteurs, locutrices de la langue des signes. Et il n'était pas trop tôt quand même. Et apparemment, nous dit Slide.fr, ça pourrait durer. C'était comme si on leur montrait qu'on les considérait enfin comme des citoyens à part entière. C'est une véritable reconnaissance pour eux, a témoigné une interprète dans l'article.
Ouais, et pour revenir un petit peu en arrière et faire un bref historique de l'histoire du handicap, on peut se référer à un ouvrage qui a été écrit sous la direction de Charles Gardou qui s'appelle « Handicap, une encyclopédie du savoir ». Et je le cite « Exhibé depuis la plus haute antiquité où il est vu comme un maléfice, démantelé dès que la science a autorisé les pratiques de dissection anatomique, ce corps estropié, cet humain contrefait qui, à mesure des avancées législatives et sociétales, deviendra une personne handicapée, sera, à son tour, objet d'études et d'interrogations, adossé au progrès de l'archéologie et de sciences connexes. » Fin de la citation. Au Moyen-Âge, on a souvent eu peur de ces indigents considérés comme contagieux. Au mieux, ils étaient des bouffons à la cour. Ensuite, la Révolution a marqué une étape assez cruciale en nationalisant des instances d'aide qui relevaient auparavant des charités privées. Évidemment, tout cela va donner lieu à des mécanismes d'exclusion, mais aussi de contrôle social, notamment au XIXe siècle, où on a classé les personnes en situation de handicap avec les criminels et les indésirables. D'ailleurs, à l'époque, on parlait plutôt d'infirmité.
Quelle horreur! Et il faut dire que la société a été un peu obligée de changer de regard. Pourquoi? Parce qu'il y a eu les guerres et la société industrielle qui ont apporté leur lot de blessés et d'accidentés du travail, que le handicap est devenu quelque chose de visible, en fait. Et c'est quand le handicap touche toutes les familles qui devient une cause nationale d'un seul coup. D'ailleurs, l'exemple américain est criant. Les États-Unis ont une politique d'accessibilité assez particulière avec des trottoirs accessibles, les rues, les toilettes, les motels, les cinémas, enfin, à peu près tous les établissements recevant du public sont faits pour être accessibles pour les personnes handicapées. Et tout ça, c'est à cause de la guerre du Vietnam, car de nombreux soldats sont revenus handicapés psychiques et handicapés moteurs. Bon, malheureusement, en France, on est plutôt avide de poser des tabous plutôt que de régler les choses. Hein. Et d'ailleurs, les gueules cassées de la Première Guerre mondiale ont d'abord été cachées. Elles étaient tachées de honte.
Sur le front, les hommes livrent bataille, épée de leur vie. C'est la grande saignée. Des soldats sont réparés à la hâte et renvoyés au combat. D'autres, trop abîmés ou traumatisés, deviennent des sujets de réflexion et d'expérimentation pour la médecine, qui va faire de prodigieux bonds en avant. Rhône-Alpes, terre d'accueil de ces soldats désarticulés, de ces gueules cassées. Une contribution à l'effort de guerre, terreau de la médecine d'aujourd'hui.
On peut aussi rappeler l'invisibilisation du génocide des personnes handicapées qui ont été parmi les premières à être décimées par la Shoah. Bon, tous les quatre matins, il y a quand même des trains qui partent à Lourdes, mais ça n'empêche pas que ça fait depuis 2005, donc à savoir sous Chirac, qu'une loi est censée rendre obligatoire l'accessibilité dans tous les transports, tous les lieux publics, et que cette loi n'est vraiment pas suivie des faits. Il suffit d'être en fauteuil ou d'avoir une canne d'aveugle et d'être dans la rue pour s'en rendre compte. D'ailleurs, en 2018, Emmanuel Macron a mis fin à la loi obligeant les logements neufs à être 100% accessibles.
Super.
Cette loi, au lieu d'être 100% accessible, s'est passée à 10% accessible. Et les autres logements peuvent être rendus accessibles aux frais des locataires et des propriétaires.
Ouais. Merci du cadeau.
Merci du cadeau. Mais l'heure n'est pas du tout à taper sur les doigts des décideurs, d'ailleurs. En 2020, lors de la 5e conférence nationale du handicap, qui était aussi l'occasion de fêter les 15 ans de la loi accessibilité qui n'est toujours pas mise en pratique, Emmanuel Macron a encouragé les maires à rendre leurs communes les plus accessibles possibles en disant « ça peut être des super promesses de campagne ».
Ouais.
Ça marche.
Et donc démerdez-vous.
Exactement.
Et alors, dans toute cette histoire, on a aussi oublié certaines périodes assez cruciales, celles des luttes militantes pour les droits des personnes handicapées, qui ont eu lieu notamment dans les années 60 et 70, en même temps que d'autres formes de contestation radicale, et notamment aux États-Unis aux côtés des droits civiques. Par exemple, en 1977, des manifestants et des manifestantes handicapées ont occupé des bureaux de la ville de San Francisco pour demander l'inclusion de la section 504 du Rehabilitation Act de 1973, c'est-à-dire pour que les personnes handicapées ne soient pas exclues de l'aide sociale et ne soient pas non plus discriminées.
The demonstrations, the 504 rally logo, a profile of a wheelchair with a clenched fist inside the wheel. Disabled demonstrators in front of the San Francisco Old Federal Building.
Some of the demonstrators occupied an area outside the office of HEW Secretary Joseph Califano. When Califano appeared, he praised their cause but said there were problems such as enforcement. However, he promised action.
L'année suivante, dans la ville de Denver, des militants et des militantes se sont allongés dans la rue pour protester contre le manque d'accessibilité de la ville. Donc ce sont des actions spectaculaires qui restent dans les mémoires. Plus près de chez nous, en Espagne, il y a aussi eu un certain nombre d'actions de la part de groupes communistes comme Minus Validos Unidos. Et chez nous, en France, c'est l'Association des Paralysés de France, APF, qui tient le haut du pavé et qui organise régulièrement des manifs pour rappeler au président de la République que les promesses ne sont jamais tenues en termes d'accessibilité, tu le disais.
On peut aussi faire un petit point sur l'école, c'est un peu le nerf de la guerre. D'ailleurs, la question a été abordée dès le siècle des Lumières. On peut citer par exemple la lettre de Denis Diderot sur les aveugles à l'intention de ceux qui voient. On en parlait tout à l'heure dans Handicap, une encyclopédie du savoir. On peut lire cela. Bon, warning, il y a des termes quand même hyper pathologisants qui viennent de l'histoire ancienne. Je ouvre les guillemets. Les savoirs et pratiques pédagogiques sont grandement redevables aux précurseurs de l'éducation des enfants sourds et aveugles qui, au XVIIIe siècle, ont conçu à partir du postulat d'éducabilité des méthodes originales. De même, la tentative d'éducation de Victor, l'enfant sauvage, a inauguré l'éducation des enfants arriérés au début du XIXe siècle. Cette expérience marque tout le siècle jusqu'au projet conçu pour les enfants des asiles, puis pour ceux que l'école considère comme débiles. Cependant, ces actions pionnières se sont pour la plupart heurtées à la persistance de préjugés stigmatisants et à l'extension sans limite de l'enseignement spécial, par exemple avec les classes de perfectionnement dans les années 60 et 70. Qu'en est-il aujourd'hui d'une éducation voulue inclusive ? De la prise en compte des besoins éducatifs particuliers et de l'accessibilité pédagogique. Fermez la citation.
Oui, c'est un grand point d'interrogation. Dans les pays anglo-saxons, on parle volontiers de special needs, donc de besoins éducatifs particuliers ou d'éducation spécialisée. On rappelle que chez nous, c'est le régime de Vichy qui a inauguré la nomenclature qu'on a appelée de l'enfance inadaptée et qui doit beaucoup à l'eugénisme. Et ce sont souvent des systèmes de hiérarchisation des individus, par exemple à travers des tests de QI qui ne sont pas du tout des données objectives. Voilà.
Oui, arrêtez de faire des tests de QI à vos enfants par ailleurs. En France, le constat est hyper compliqué. Les parents d'enfants qui ont besoin d'un ou d'une AVS ou de mettre leurs enfants dans des structures spécialisées sont face à un vrai casse-tête, et ce, dès la crèche. D'ailleurs, de nombreuses écoles de primaire, maternelle, refusent les enfants par manque de personnel ou de temps, et les places en structure sont extrêmement limitées. Alors même que les parents et les enfants concernés savent que grandir avec les autres, quand c'est possible bien sûr, est souvent capital, et que passer du temps avec d'autres enfants concernés et avec des professionnels, c'est vital. Beaucoup d'ados ou de jeunes se retrouvent aussi chez leurs parents par défaut ou en institution, et ainsi se retrouvent pathologisés, isolés, ne peuvent qu'avec difficulté mener une vie indépendante et travailler plus tard. D'ailleurs, en 2017, la rapporteure de l'ONU sur les droits des personnes handicapées, après une visite en France, a émis des recommandations assez sévères, ça m'étonne pas. Des associations appellent d'ailleurs à fermer les institutions maltraitantes et violentes, et peu nombreuses.
Alors justement, faut-il parler de handicap au singulier ou au pluriel ? D'abord, c'est un terme qui vient de l'anglais « hand in cap » et du domaine sportif. Et il faut faire la distinction entre handicap visible et invisible. Il peut être sensoriel, moteur, mentaux, psycho-affectif. Et on a souvent l'image d'une personne en fauteuil qui peut aussi invisibiliser toutes les autres formes de handicap.
D'ailleurs, c'est aussi à cause du logo. Le symbole du handicap, c'est une personne en fauteuil.
C'est vrai, on parle donc plus volontiers d'être en situation de handicap. Dans le livre qu'on a déjà cité, Handicap, une encyclopédie du savoir, il y a cette définition. Le handicap, c'est-à-dire la signification sociale de la déficience ne saurait être confondue avec la déficience elle-même. Mmh. On parle plutôt de forme d'interdépendance. La question du handicap où nichent les problématiques de l'identité, de l'altérité, des croyances, de l'échange et des modes de socialisation éclaire les angles morts de la pensée sociale. Fermez les guillemets. Effectivement, avant la France, les États-Unis ont produit à l'université des savoirs qu'on a appelés les Disability Studies, donc des savoirs sur les droits des personnes handicapées et sur leur situation. C'est une question qu'on a d'abord vue sous l'angle du soin, du care, de la santé et des politiques publiques, ce qui est déjà une étape, mais qui a aussi produit des stéréotypes sur l'assistanat, là je mets vraiment de gros guillemets, infantilisant, puisque les personnes concernées réclament, elles, plutôt une capacité d'agir, une autonomie, une reconnaissance et une visibilité. Du coup, plutôt que de les infantiliser, il faut les écouter. Et d'ailleurs, une expression qui vient des militants et des militantes en Afrique du Sud dans les années 90 me semble assez juste, c'est « nothing about us without us », donc rien de ce qui nous concerne ne doit être fait sans nous.
Et d'ailleurs, ces personnes dénoncent le validisme. Alors qu'est-ce que c'est le validisme ? Ça vient de l'anglais « ableism », c'est l'oppression systémique des personnes handicapées, des préjugés, des discriminations, parce que les personnes handicapées sont considérées souvent comme à plaindre, souvent comme objet de moquerie, elles ne peuvent pas accéder à l'espace public, qu'il soit physique ou pas d'ailleurs. Elles sont reléguées à l'espace privé plutôt. Elles sont invisibilisées, on ne s'adresse pas à elles mais à leurs compagnons, mari, enfant, épouse. Elles sont perçues comme asexuées et non désirables. Elles ne sont pas représentées du tout, ou en tout cas pas correctement dans les médias, dans les films, dans les contes pour enfants. Bref, une norme sociale majoritaire et dominante, donc discriminante, à jeter cet opprobre sur les personnes handicapées, donc le validisme. Le concept aide aussi à expliquer, à comprendre en tout cas l'intersection entre les luttes, entre le genre, la classe, la race. Pour donner des exemples concrets, en réunion, on ne pose pas la question de savoir si tout le monde voit correctement le tableau, par exemple, si tout le monde est à l'aise sur le siège, par exemple. On équipe une salle de cinéma flambant neuve en mettant des emplacements fauteuils roulants au premier rang. Tant pis pour les personnes qui ont des trachéos et ne peuvent pas lever la tête pour regarder le film. Encore plus marquant, toutes les stations de métro ont des escaliers et rares sont celles qui ont des ascenseurs. Paris est particulièrement championne dans cet exercice.
Ouais, et je pense aux personnes qui ont des poussettes aussi. Je pense qu'elles comprennent mieux la question du handicap dès qu'elles
se dépassent. On est bien d'accord. Et autre exemple, les gens qui se garent sur les bateaux des trottoirs car ils ne voient pas la ville handicapé-wise. Ils voient juste une place de parking. Et ils se diront que la personne fera le tour, mais sauf que faire le tour, c'est relou.
Pour les automobilistes vraiment handicapés, garer sa voiture est devenu un véritable enfer. Joël est confronté quotidiennement à ce problème. Dans son quartier, le 19e arrondissement, il fait régulièrement des rondes pour traquer les conducteurs qui prennent les places handicapées.
Bonjour. C'est juste une question, vous savez si vous êtes sur un emplacement réservé. Vous savez que nous, on cherche toujours des places. Oui, mais c'est pas ça, monsieur.
Et récemment, il y a un autre débat qui a animé l'actualité, les réseaux sociaux. C'est les animaux d'assistance pour les personnes handicapées, moteurs, sensoriels ou même les personnes neuroatypiques. Par exemple, beaucoup de personnes autistes, mais aussi des personnes qui survivent d'un trauma, ont besoin d'être accompagnées par un animal pour affronter le monde extérieur. En 2018, un jeune malvoyant de 25 ans avait été expulsé d'un carrefour Manu Militari à Toulouse. Pourtant, la loi est stricte, les chiens d'assistance sont autorisés dans les transports et les commerces. Mais beaucoup de personnes mal renseignées ou handiphobes continuent de questionner la présence de ces animaux et donc de leur maître dans la ville.
D'ailleurs, je me souviens que l'actrice Carrie Fisher voyageait toujours en avion avec son chien voilà, pour besoins particuliers.
Bah oui, bien sûr.
Pour donner quelques chiffres, pour se donner un peu une idée de la question, 12 millions de personnes sont concernées en France, donc 80% avec un handicap invisible. Cela représente aussi 380 000 élèves. 18% d'entre elles sont au chômage. Il y a donc un risque de précarisation puisque la moitié des personnes ont un niveau de vie inférieur à 1 540 euros par mois, c'est-à-dire une différence de 200 euros par rapport aux personnes valides. Deux tiers des personnes ayant un handicap moteur ont encore du mal à se déplacer selon une étude IFOP parue en 2020. La faute aux trous dans la chaussée, aux trottoirs trop étroits. Il faut donc repenser urgemment l'urbanisme, la mobilité et des transports plus inclusifs.
Et tu parlais de précarité, il faut aussi rappeler que le handicap a un coût, que c'est cher d'être handicapé en fait, puisque par exemple, quand il n'y a pas de métro, bah, il faut prendre un taxi équipé. Un taxi équipé, c'est pour une course de 10 minutes, ça va être 80 euros à Paris. Parce qu'il faut que le taxi arrive et il y en a très peu qui sont équipés. Donc le temps qu'il arrive, il charge la course. Bref, ça coûte cher d'être handicapé en France et en plus, on gagne moins d'argent.
Et alors, justement, quel est le lien avec le féminisme et question de genre?
Déjà, il y a un mot qui existe qui s'appelle le handiféminisme. Pourquoi? Parce qu'il y a une prise de conscience tardive de la place du handicap dans la réflexion féministe, mais on va y revenir plus tard. Déjà, on part d'un constat récent. Beaucoup de manifs aujourd'hui proposent des chars ou des espaces pour les personnes à mobilité réduite ou les personnes malentendantes ou malvoyantes ou sourdes ou muettes. La lutte féministe a pourtant mis vraiment beaucoup de temps à considérer les vies des personnes handicapées. De la même façon d'ailleurs que le féminisme a mis du temps à penser en 3D. Comme l'a expliqué l'autrice féministe américaine Roxane Gay à notre camarade Olga Wolfson, certains féministes échouent quelque part à se rendre compte que nous vivons dans des corps et donc que nous devrions mettre en avant la lutte contre la grossophobie et le validisme autant que les combats pour les droits reproductifs, l'égalité salariale. D'ailleurs, dans « Je vais m'arranger, comment le validisme impacte la vie des personnes handicapées », Marina Carlos, qu'on entendra tout à l'heure, y consacre un chapitre entier. On y apprend, si on l'ignorait, que les femmes en situation de handicap sont plus touchées par le harcèlement sexuel, par exemple. 61% d'entre elles, au lieu de 54% des femmes dites valides.
Oui, donc ça ne préserve pas en plus d'autres problèmes de sexisme. Justement, pourquoi le handicap serait-il aussi un problème féministe et pourquoi a-t-il été aussi négligé? Il y a une contributrice du site BuzzFeed aux États-Unis qui a raconté, par exemple, que les séminaires sur le consentement et le viol qui se tenaient sur le campus où elle était étudiante ne lui parlaient pas, qu'ils étaient excluants parce qu'en fait, ils partaient du principe que tout le monde se déplace de la même manière dans l'espace. Mmh. Et elle écrit « Le féminisme a du mal avec la question du handicap parce que les femmes en situation de handicap sont sujettes à des stéréotypes qui sont diamétralement opposés aux stéréotypes des femmes valides. » Voilà, donc ça peut être parfois difficile à comprendre. En tout cas, cela pose à la fois la question de la condition sociale, de l'accès à l'espace public, de l'accès aux soins, à la sexualité, la question des inégalités salariales. Heureusement, dans les milieux universitaires, on a vu récemment la création d'un réseau d'études handiféministes. Donc on a hâte de voir ce qu'elles vont produire comme savoir et comme connaissance. Il faut aussi rappeler que les femmes sont moins bien diagnostiquées pour l'autisme que les hommes. Donc souvent, elles-mêmes ne savent pas qu'elles sont sur le spectre autistique. Voilà, donc c'est plus difficile à diagnostiquer.
Et de la même façon qu'on n'entend pas ou qu'on ne voit pas la parole ou les vécus des femmes handicapées, la libération de la parole est encore plus compliquée. Pourtant, ces femmes ou ces personnes non-binaires ou ces hommes trans, enfin en tout cas les personnes handicapées, sont régulièrement agressées dans les institutions qui les reçoivent ou au sein même de la famille. Et c'est une parole qui n'est pas du tout écoutée. L'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne estimait en 2014 que 34% des femmes handicapées avaient subi des violences physiques ou sexuelles de la part de leur partenaire, contre 19% des personnes valides. D'ailleurs, l'association anti-féministe Femmes pour le dire, Femmes pour agir a lancé un site pour enfin prendre en compte les paroles des femmes en situation de handicap. Donc si vous êtes concernée ou si vous avez envie de témoigner, n'hésitez pas, c'est écouteviolencefemmeshandicapées.fr.
Oui, on vous redonnera l'adresse dans le descriptif de l'épisode. C'est vrai que pour ces femmes qui subissent des violences, on leur dit souvent qu'elles devraient déjà s'estimer heureuses que quelqu'un s'occupe d'elles et que du coup elles n'ont pas à s'exprimer sur la question. Par ailleurs, dans la veine du retournement de stigmate, à partir du terme « cripple » en anglais qui veut dire « estropié », il y a tout un mouvement radical et positif de la part de personnes LGBT+, en situation de handicap, qui s'appelle donc « culture creep » et qui fait tout un tas d'actions, tout un tas de représentations. Je vous invite à regarder un peu ce que font tous ces gens.
D'ailleurs, il y a plusieurs travailleuses du sexe handicapées qui ont pris la parole et qui se sont visibilisées récemment. Pour en citer une, dans le film d'Émilie Jouvet, My Body, My Rules, la performeuse No Anger met en scène son corps nu et elle ne danse pas malgré ou pour dépasser quoi que ce soit, elle danse avec son corps et ça fait du bien à voir. Mmh. Il faut savoir que le sexe est encore une fois un tabou qui touche tous les handicaps. Et qui dit tabou dit aussi curiosité malsaine qui réifie les personnes. Qui dit interrogation continuelle sur la sexualité, exotisme, érotisation, fétichisme, enfin bref, la liste est longue. Mmh. Pour rappel aussi, en France, c'est tellement tabou que les accompagnants sexuels, par exemple, sont toujours interdits, alors qu'ils sont autorisés dans beaucoup de pays en Europe, la Suisse par exemple.
Oui, on n'arrive vraiment pas à penser cette question-là.
Coucou. Clément est hémiplégique et aphasique depuis un accident de moto.
Ça fait un moment que je t'ai vu.
Au-delà des mots, une relation de confiance.
Il y a des règles quand même assez précises. C'est la famille qui me contacte ou on prend encore rendez-vous parce que c'est Clément qui exprime ses besoins. Pour moi, c'est important que le cadre reste bien posé et ça évite d'avoir des dérapages. Il y a un attachement. Mais il s'inscrit de façon balisée.
Et alors évidemment, quand on est en situation de handicap, on peut aussi être victime de racisme. Hein, donc tout ça s'accumule. Je vous invite à lire sur le site bpax.org le témoignage édifiant d'Amalia, qui était rédactrice en Belgique dans une agence de communication. Elle est sourde, elle est d'origine indienne. Et elle a notamment sensibilisé les personnes de son bureau à la LSF, donc à la langue des signes française, et à la surdité en milieu professionnel. Et donc, par exemple, elle demandait qu'on lui envoie les PowerPoint 10 minutes avant une réunion. Et un jour, à une réunion, des collègues n'étaient pas face à elle, donc elle ne pouvait pas lire sur leurs lèvres. Donc elle s'en est plaint et à l'issue de cette réunion, l'un de ses collègues lui a dit « Tu sais, un noir au milieu des blancs, il apprend à s'adapter. » Donc à partir de ces paroles très violentes, elle a vécu une sorte de spirale puisqu'elle a été harcelée par des collègues, elle a vécu du stress, un burn-out et elle a finalement dû quitter l'entreprise. Je pense que cette expérience n'est pas rare, en tout cas.
Non, elle n'est pas rare et puis elle est hyper révélatrice. Et d'ailleurs, le fait de devoir se conformer au monde des valides vaut aussi pour la liberté juste de gérer son corps. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui équipent leur fauteuil roulant de picots sur les poignées de fauteuil car il se trouve que les gens prennent les poignées et bougent les personnes handicapées ou alors prennent le bras d'une personne aveugle qui n'a pas besoin d'être guidée, en fait. Mmh. C'est bon, quoi. Elles savent très bien se gérer toute seule. D'ailleurs, Marina Carlos en parle beaucoup. Elle consacre un chapitre au consentement, ce qu'elle appelle l'intimité forcée. Mmh. Elle explique que l'expérience quotidienne des personnes handicapées, c'est de dévoiler des détails intimes, voire de mettre à disposition leur corps pour une assistante physique forcée, pour avoir accès à quelque chose et survivre dans un monde validiste. On n'a pas envie de faire de la peine à la personne qui veut vous aider, même si vous n'avez pas besoin de son aide et même si vous trouvez ça chelou. On peut rappeler aussi que ça va très très loin, c'est-à-dire qu'il y a eu de nombreuses stérilisations forcées, en particulier pour les personnes handicapées mentales et qui ont toujours cours aujourd'hui. Pour dire un truc un peu plus léger, mais qui est très symbolique aussi, le voyage à l'arrache, il est réservé aux valides aujourd'hui. Pour les autres, le monde est compliqué à atteindre. Organiser un voyage, c'est une charge mentale folle et certains et certaines essaient de changer ça. On peut rappeler par exemple que la compagnie aérienne EasyJet a été condamnée en 2012 à payer 70 000 euros d'amende pour avoir refusé l'embarquement à 3 passagers qui voyageaient sans accompagnateur. Mais quelle idée! Vous ne pouvez pas vous suffire à vous-même, voyons. Elle a été aussi condamnée deux fois en 2014 pour les mêmes raisons. Le motif invoqué est toujours le même, la sacro-sainte sécurité. Sécurité pour qui ? La question est là.
Je suis parti seul de Nice avec EasyJet et que dès le retour, donc quelques jours après, on m'a refusé d'embarquer parce que je n'étais pas accompagné.
EasyJet estime alors qu'une personne handicapée physique, quelle qu'elle soit, est incapable de mettre elle-même un masque à oxygène, un gilet de sauvetage ou bien encore d'évacuer en cas d'urgence.
C'est aussi un motif qu'ils utilisent pour démonter les fauteuils roulants sans ménagement, les foutre en soute, comme le raconte d'ailleurs la voyageuse de 29 ans Audrey Barbeau dans son blog « Roulette et sac à dos ». Elle dit « Le moment qui me stresse le plus quand je voyage, c'est lorsque je dois prendre un avion. Non pas parce que je suis claustrophobe ou que j'ai peur d'un crash, mais parce que j'ai un fauteuil roulant. Et qui dit fauteuil roulant et avion, dit possible problème en tout genre, sachant qu'un fauteuil roulant coûte très cher et les réparations ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale.
Bon, vive le capitalisme. »
Mademoiselle Koura Toras, 34 ans, a monté d'ailleurs Handiplanet avec son frère. Elle est atteinte d'une myopathie dégénérative et elle est partie en fait à l'arrache avec son frère dans le pays natal de leur père, la Grèce. Et ça a été l'enfer, donc... Elle a monté ce site, c'est un peu un Airbnb qui permet d'avoir un peu l'impression d'avoir un monde accessible à portée de clic. Donc, si vous êtes concerné, franchement, allez faire un tour, ça fait un peu du bien.
Oui, alors il y a aussi un certain nombre de personnes à suivre. C'est ce qu'on appelle des disability advocates en anglais, donc des militants et des militantes du handicap à suivre. On peut citer par exemple Nakia Smith, qui elle est sur le réseau social TikTok. Elle pratique le BASL, donc le Black American Sign Language, puisque voilà, il y a tout un parler, des expressions qui sont propres aux Afro-Américains et aux Afro-Américaines, qui ne sont pas forcément inclus dans la langue des signes en anglais. Donc c'est assez chouette. Il y a la journaliste américaine Melissa Blake, qui est très connue. Elle souffre du syndrome de Freeman-Sheldon. Et elle a été notamment victime de harcèlement en ligne parce que simplement, elle avait posté des photos d'elle et qu'on lui a dit qu'elle était trop moche pour prendre des selfies.
Qu'elle faisait peur même, j'ai vu.
Voilà, et donc elle a aussi écrit un message aux parents qui utilisent sans vergogne son visage pour faire pleurer leurs enfants sur TikTok. Donc voilà, en fait c'est une personne, donc merci de ne pas faire ça.
That's interesting. I think it was there was a little bit of a defiant nature in me, and I saw those comments, and it was just thousands of comments basically saying the same thing about my appearance, and I thought, well, if they don't want me to post selfies, that's exactly what I'm going to do as a way to kind of show them that they're not going to get the best of me and that I'm going to be proud of who I am and I'm not going to be afraid to post pictures of myself.
Il y a aussi la youtubeuse beauté Elsa Makeup, il y a l'actrice de X, Marie-Léa Kinka, il y a aussi le travail de la photographe japonaise Marie Katayama, qui a été amputée partiellement des membres. Vous pouvez aussi vous référer au travail d'Angelina Bruno, qui est à la fois chorégraphe et danse-thérapeute et qui a dansé pour Black M. Qui d'autre ?
En France, on est bien lotis, puisqu'il y a Elisa Roras, bien sûr, qui est très connue, qui est avocate, qui tient le blog Les Marches du Palais. On en parlera tout à l'heure parce qu'elle a écrit un livre super.
Et le truc aussi vraiment surprenant en France, c'est qu'on est en train de vous faire croire qu'on en est au stade du débat. De est-ce qu'il faut désinstitutionnaliser ? Il y a des colloques, des journées qui s'organisent avec les associations gestionnaires où ils s'interrogent sur comment diversifier l'offre médico-sociale. Alors que déjà, c'est pas une offre. Hein. On n'est pas des clients sur un marché qui ont eu un jour le choix. Hein. Elle a été imposée, l'institutionnalisation, déjà. Et donc, parce qu'évidemment, il s'agit pour eux de ne pas perdre leur bille. Alors, on vous fait croire voilà, que c'est cette question qui se pose aujourd'hui en France. Alors que non, puisque le débat, il est tranché. Sur le plan international, il y a un texte qui est la Convention internationale des Nations unies sur les droits des personnes handicapées. Elle a été signée par la France.
Elle est connue aussi pour avoir critiqué le Téléthon, qui est une institution difficilement critiquable en France. Il y a aussi Alistair H. Paradoxae, qui est un youtubeur autiste qui fait beaucoup de pédagogie bienveillante et militante sur le handicap invisible, sur l'identité de genre, les orientations sexuelles. Il y a Frix, qui est illustrateur du livre de Marina Carlos, et c'est super chouette. Il se bat pour l'autonomie des artistes concernés par le handicap. Il y a Zipora Ariel, qui est queer, juive et handicapée, et qui se bat sur ces trois fronts. Il y a Mathieu, de Vivre Avec. Vivre Avec, c'est son compte Twitter. Lui, il documente beaucoup la fatigue militante et l'importance des animaux d'assistance. Il a des lapins.
Oh !
Et il y a aussi Alice Wong, créatrice Disability Visibility Project, encore de l'autre côté de l'Atlantique, mais quelque chose qui mérite d'être regardé.
Mmh. Oui, vous pouvez aussi vous abonner à des comptes sur les réseaux sociaux, sur Instagram Tape à l'air autiste, sur Facebook Pépite validiste, qui comprend aussi des descriptions de l'image à chaque fois. On peut suivre le collectif antiféministe Les Dévalideuses, écouter Corps indocile, un épisode de Un podcast à soi sur Arte. Il y a aussi le collectif Irrécupérable, qui est intersectionnel jusqu'au bout des griffes. De manière plus générale, on peut aussi organiser des événements inclusifs et accessibles PMR et LSF, hein, il faut quand même y penser. On peut aussi avoir des heures calmes dans des magasins, c'est déjà le cas dans certains supermarchés.
Dans des piscines.
Par exemple, ouais. Et on vous invite à lire un article du site zinzinzine.net qui explique comment être un ou une bonne alliée. Donc par exemple, éviter le langage validiste avec des mots psychophobes comme fou. Déconstruire l'idée de la valeur, le capital social, mais aussi le désir. Comprendre ce qu'est le privilège intellectuel et éviter des stéréotypes, par exemple Rain Man, on en parlera tout à l'heure.
Donc on a tellement aimé le livre de Marina Carlos, Je vais m'arranger, comment le validisme impacte la vie des personnes handicapées, qu'on a envie d'en savoir plus, donc on lui a posé quelques petites questions.
Je suis Marina Carlos et j'ai autopublié en juillet dernier Je vais m'arranger, comment le validisme impacte la vie des personnes handicapées. Au sein des mouvements féministes, les femmes handicapées ont été et sont encore trop souvent ignorées, et ce parce qu'elles ne sont pas considérées comme des femmes. Elles sont infantilisées, perçues comme asexuées, non désirables, trop vulnérables et sont rangées dans cette case autre, cette case handicap. Et évidemment que si, nous, femmes handicapées, sommes des femmes et donc également concernées par ces luttes et n'avons pas à en être exclues, d'autant plus que les femmes handicapées sont davantage exposées concernant certaines d'entre elles, comme celles des violences sexuelles. Je souhaitais éduquer sur le validisme avec un contenu facile à appréhender et à comprendre, vu la densité du sujet, et au travers de 5 thématiques comme l'accessibilité ou la représentation dans les médias et d'exemples concrets, tenter de montrer l'omniprésence de cette oppression dans notre société. Avec ce livre, je voulais vraiment aussi que des personnes handicapées puissent s'y retrouver et peut-être mettre des mots sur des ressentis ou expériences, mais je voulais également que toute personne valide intéressée par le sujet puisse en savoir plus. Récemment, on a effectivement pu voir plus de personnes handicapées dans la pop culture et qui sont représentées d'une manière plus réaliste et diverse, notamment dans la mode ou dans les séries. Je pense à Aaron Philippe, à Ellie Goldstein, à Chelamen ou encore à Maïsoun Zahid. Cependant, les contenus audiovisuels restent majoritairement écrits, produits, réalisés, joués par des personnes valides qui ont des perceptions validistes du handicap. On va penser dernièrement au film de Sia Music qui a été vivement critiqué par des personnes et activistes autistes. Et ces contenus reprennent trop souvent deux extrêmes, le misérabilisme et ce qu'on appelle l'inspiration porn, c'est-à-dire un contenu où la personne handicapée existe uniquement pour inspirer les personnes valides. Aussi, il y a cette idée que les personnes handicapées ne sont que ça, des personnes ayant un handicap. De fait, les personnages handicapés et leurs storylines vont être réduits à cette partie de leur identité, alors qu'ils peuvent tout à fait avoir des rôles plus profonds, nuancés, et jouer le rôle de parents, d'amis, de partenaires. Par conséquent, il est vraiment essentiel d'inclure les personnes concernées devant, mais aussi derrière la caméra, afin d'exporter une représentation plus juste, plus nuancée des personnes handicapées sur les écrans et d'arrêter de nous représenter via des stéréotypes que nous subissons au quotidien et dont nous voulons nous débarrasser.
Voilà, merci Marina. On peut acheter ton livre sur marinacarlos.com, qui est un livre auto-édité. Donc, tout ça vaut au portefeuille.
Et pour parler un peu de notre expérience, justement, ça peut aider à comprendre cette question lorsqu'on y est soi-même confronté ou par le biais de proches. Tu peux nous raconter ?
Moi, j'ai grandi avec une mère PMR. Elle a eu la polio à l'âge de 13 mois, donc elle a toujours été handicapée physique. Donc, c'est vrai que je vois le monde à travers ses yeux. Et ceux d'ailleurs de ses amis, puisqu'on a été beaucoup entourés par des personnes handicapées avec divers handicaps. Et c'est vrai que quand je vais à l'hôtel, je pense à elle. Quand j'aime un resto, je pense à elle, si elle pourra venir. Quand je vois un beau panorama, je me dis comment elle pourrait venir le voir. Bref, c'est vrai que j'ai ce privilège de pouvoir voir le monde un peu comme elle. Le validisme, c'est vrai que je l'ai vu rapido. Mon père passait un peu pour un héros, ce qu'il haïssait. Héros de quoi ? D'aimer ma mère. Enfin, c'est chelou. Mmh. Les gens s'adressaient plutôt à mon père et pas à ma mère. Heureusement, elle a une grande gueule, donc elle avait tendance à dire « La dame, elle a un nom et elle a des yeux, vous pouvez lui parler directement. » Donc, nous, on avait tendance parfois à nous brandir comme des petites victoires. Ah, vous avez réussi à faire des enfants, c'est extraordinaire. En vacances, il y a des inconnus qui pouvaient traverser la rue pour venir nous dire « Oh, vous êtes une belle famille, c'est beau, c'est bien, c'est horrible. » Parfois, je pique des crises quand à Paris, il y a 4 bus qui lui passent devant parce qu'ils ont juste la flemme de se garer, de sortir la rampe. Mmh. Des fois, j'ai honte parce que des personnes soupirent parce qu'il faut la laisser passer. Je trouve ça vraiment très chaud. D'ailleurs, j'ai plusieurs fois piqué des gueulantes sur Twitter, mais bon, c'est pas grave. Elle m'a raconté d'ailleurs que quand elle était enceinte de moi, elle avait pris rendez-vous pour se renseigner à la MDPH, donc la Maison Départementale du Handicap, et qu'elle n'avait pas pu rentrer, puisqu'il y avait des marches.
Non, mais c'est hallucinant.
Non, c'est vrai. Il y avait des marches, et ils ont dit « Ah, mais en fait, on n'a pas prévu que les gens viennent. Normalement, c'est les autres qui viennent pour vous, puisque vous, vous restez à la maison pour rien foutre. » Bref. Mon père est aidant familial, et ça aussi, c'est intéressant. Bref, tout va très bien pour lui, mais c'est vrai que c'est une position chelou. Et que les aidants ne sont pas trop accompagnés, donc c'est quelque chose qu'ils ont pris en charge tous les deux, de questionner ce que ça peut changer dans leur couple. Donc c'est intéressant. Bref, et toi Clémentine ?
Bah nous, évidemment, on se pose aussi la question de l'accessibilité des podcasts, hein, évidemment, puisqu'ils ne sont pas accessibles à tous et à toutes. Moi, je n'ai pas de rapport vraiment personnel à cette question-là, hormis que ma mère est dysorthographique, ce qui n'est pas un handicap très lourd, mais que bon, elle a dû quand même quitter l'école au collège. Moi, j'en ai des souvenirs, parce que quand j'étais petite, dans mon école primaire, il y avait une classe qu'on appelait « clean » à l'époque, qui mélangeait à la fois des élèves étrangers ne parlant pas bien français et des élèves ayant des difficultés d'apprentissage ou neuroatypique. Et pour nous, c'était en fait la classe des nuls et des débiles. Donc je mets vraiment beaucoup de guillemets. Hein. Et donc l'enfer, en fait, parce qu'ils n'étaient pas du tout... Enfin, on ne se mélangeait pas, en fait, entre élèves. Donc je ne sais pas très bien quelle était l'utilité de tout ça. Et à la même époque, à la télé, il y avait un dessin animé qui s'appelait Clémentine, donc on chantait tout le temps le générique, donc dans les années 80 et 90, qui parlait d'une petite fille en fauteuil qui s'échappe par l'imaginaire dans une bulle. Et en fait, rétrospectivement, je trouve ça assez bien, en fait, qu'on ait vu ça à la télé. C'était quand même assez rare. Ensuite, j'ai eu aussi un prof de maths qui était en fauteuil au lycée, mais et une amie dont la sœur est sourde, et une autre amie qui apprend à signer en LSF aujourd'hui, je trouve ça assez bien. Mais c'est vrai que j'ai surtout entendu ce vieux discours bien rance, disant que voilà, les personnes handicapées font chier pour avoir des infrastructures spéciales pour elles ou pour eux. Donc en gros, que les personnes les plus minorisées seraient en fait privilégiées. Attention.
Et alors, c'est valable aussi pour les femmes enceintes quand il faut aller à une caisse de supermarché, par exemple.
Ouais, c'est ça, ou se lever dans le bus. Mais je trouve que cette année, le Covid nous a quand même tous et toutes fait prendre conscience de qu'est-ce que c'est qu'être à risque. On s'est tous auto-évalués. Mmh. Et donc, de ce qu'est le validisme, en fait, et le fait qu'être une personne à risque, ce n'est pas être faible, n'en déplaise à Donald Trump. Moi-même, j'ai aussi pris conscience d'être une personne valide, hein, parce que c'est quand même ça la première étape. Donc, par exemple, je fais attention à ne pas squatter les toilettes pour handicapés. On a aussi parlé des personnes handicapées en manif, donc c'est bien aussi de le prendre en compte, surtout quand on culpabilise les gens qui ne viennent pas parfois à des manifs, qui en fait ont peut-être de bonnes raisons de pas toujours vouloir venir. Et ces jours-ci, je lisais la version anglaise de Glamour et j'ai trouvé ça assez cool de voir Ellie Goulding, qui est une mannequin trisomique, être au centre d'un shooting photo de beauté. Et en fait, son handicap n'était absolument pas le sujet du dossier, quoi. Voilà, c'était juste un sujet beauté. Mmh. Bon, évidemment, il y a pas mal d'opportunisme là-dedans, hein. On n'est pas dupes, mais en tout cas, ça fait quand même un peu avancer le schmilblick.
Ouais, de l'opportunisme ou du handi-washing. Je sais que l'agence Elite s'est aussi vantée de recruter des mannequins en situation de handicap. Je pense que ça peut être un peu chaud, mais en même temps, si on voit le verre à moitié plein, ça change aussi la représentation de la beauté. Donc ça peut être chouette quand même, par les temps qui courent, on essaie de trouver des trucs positifs.
Ouais, et dans les médias, le CSA s'est enfin doté d'un comité qui va vérifier la représentation du handicap dans les médias. Il y a aussi des journalistes qui sont spécialisés autour de la question, par exemple Elsa Maudet, à Libération.
Le moment
pop
culture.
Pop culture.
Alors, dans la pop culture, représentation, mauvaise représentation, de quoi on parle ?
Oui, alors il y a beaucoup de mauvaises pratiques. En termes de représentation, les personnes handicapées souffrent d'un vrai manque de visibilité, puisque il et elle représentent 17% de la population, mais à la télévision, ça passe à 0,7% selon l'INSEE et le CSA.
Il faut savoir que certains cinémas, surtout à Paris, ne sont toujours pas accessibles au PMR. Donc, par exemple, les gens concernés ne peuvent même pas voir Intouchable au cinéma. Et la représentation du handicap reste extrêmement restreinte au cinéma. Il y a longtemps, on a eu une invisibilité totale ou une esthétique de la déficience, une ostracisation même du handicap. On peut penser à Willow, qui est un film où les personnes atteintes de nanisme sont finalement un peuple infantilisé, mignonisé, on pourrait dire. Voire relevant du monstrueux ou du méchant. Je pense à Capitaine Crochet, aux pirates qui sont représentés sans jambes. Mm. L'arc narratif de ces personnages est toujours un peu le même. Souvent, ils se normalisent avec un grand mérite.
Ils sont comme nous.
Bravo le catholicisme de merde. Soit ils finissent par mourir ou se suicider. Merci bien.
Ouais, super. Comme si on ne pouvait pas du tout vivre de cette manière et que c'était insupportable. De son côté, la comédienne Anna Thaoué a présenté des excuses publiques pour ses mains dans le film The Witches, donc qui est adapté du livre de Roald Dahl. En fait, ce ne sont pas des mains de sorcière, mais c'est une maladie qui s'appelle ectrodactylie. Donc moi, je vous conseillerais plutôt de suivre un mouvement musical comme le creep-up aux États-Unis. Autre problème, il y a le discours du tokenisme, donc c'est-à-dire de dire que les personnes handicapées, elles arrivent à faire oublier leur handicap, à le sublimer, à aller mieux. Peut-être qu'on peut les réparer. Elles arrivent à dépasser leur handicap, à s'accepter. Il faut être tolérant. Et donc, comme dit le médecin Baptiste Beaulieu, la tolérance, c'est pour le lactose, c'est pas pour les gens. Voilà. Donc parfois, il y a une forme de misérabilisme doloriste. Donc c'est celui du Téléthon. Qui fonctionne très bien d'ailleurs sur les personnes valides, puisque ce spectacle génère des dons. Et ça verse dans ce qu'on appelle en anglais le inspiration porn, donc le porno de l'inspiration, à travers des récits édifiants, donc par exemple le 8e jour ou Intouchable.
On pensait que vous seriez quand même capable de travailler.
Vous en avez de l'humour.
J'aurais tellement que je suis prêt à vous prendre à l'essai pendant un mois. Je parie que vous tiendrez pas 2 semaines.
Oui, on peut parler par exemple dans la série Glee du personnage de Artie Abrams, qui est un peu écrit comme ça. Il se dépasse grâce à la musique. En gros, le personnage est toujours un peu monobloc, sans vraie profondeur. En gros, il n'est qu'une illustration de la méritocratie.
Artie Abrams, lunchroom sources tell me you've been seen sitting with Cheerios.
Well, I'm usually seen sitting.
Et c'est vraiment différent du traitement apporté par exemple par une série comme Rami, qui est absolument géniale. Enfin, moi, c'est une série que j'adore. Dont le meilleur ami Steve est en fauteuil, il est polyhandicapé et c'est un vrai connard. Il se victimise à dessein, il fait des trucs bien relous, il parle comme un charretier, il est à mourir de rire, il est bourré d'angoisse face à la mort ou à la dépendance. En bref, c'est un vrai personnage, c'est pas juste une case de cocher, c'est quelqu'un qui a plein de dimensions. Donc voilà, ça c'est des personnages qui font plaisir.
You finally have a Muslim on a TV show that's not a terrorist. You have a person with a disability that's actually played by someone with a disability, and they don't just want to kill themselves or feel sorry for themselves.
Oui, contrairement à un autre phénomène assez endémique qui est le creeping up, d'ailleurs Slate.fr en parle dans un article, ça consiste à faire jouer à des acteurs valides des rôles de personnes handicapées, souvent pour obtenir un prix ou un rôle à Oscar. Donc c'est par exemple le cas du film Intouchable ou de Tout le monde debout, le film de Franck Dubosc avec Alexandra Lamy en fauteuil roulant, du film The Theory of Everything sur le scientifique Stephen Hawking, de My Left Foot. Les arguments donnés sont souvent que être acteur ou actrice, c'est un métier, donc ce sont des rôles de composition, qu'une personne connue peut attirer l'attention sur cette question. En réalité, ça empêche surtout des comédiens et des comédiennes en situation de handicap d'accéder à des rôles. On pense à des films comme Forrest Gump, Rain Man ou Gilbert Grape avec Leonardo DiCaprio, sachant que la moitié des prix remis à des meilleurs rôles masculins aux Oscars ont été à des rôles de personnes en situation de handicap. Et selon un rapport de GLAAD en 2019 qui s'appelle Where We Are on TV, 3,1% des personnages à la télévision sont en situation de handicap, mais 95% de ces personnages sont joués par des acteurs et des actrices valides. Voilà, donc ça ne va pas. Heureusement, il y a aussi quelques bonnes pratiques et de meilleurs exemples.
Juste pour revenir, tu parlais du fait que ça empêche les comédiens et comédiennes handicapés d'accéder à des rôles, mais je pense aussi que ça empêche à des enfants ou à des personnes de se dire qu'ils peuvent être comédiens et comédiennes.
Ouais, en plus.
C'est encore pire, je trouve, limite. Oui, il existe quand même des bonnes pratiques et il faut quand même les souligner. On peut citer l'archi-sexy Peter Dinklage, qu'on a vu évidemment en tant que Tyrion Lannister dans Game of Thrones.
I've always wanted to see the wall.
You're Tyrion Lannister. Queen's brother?
greatest accomplishment.
Lui, il est super et le rôle est intéressant aussi. Bon, la série a eu beaucoup de succès auprès des activistes du handicap parce qu'il y a le personnage de Bran qui est paralysé, Jamie qui n'a qu'une main. Mais il y a aussi eu beaucoup de critiques. Par exemple, Jamie apprend très vite à se battre avec son autre main. Bran et Hodor ont des dons mystiques. C'est un cliché qu'on donne souvent aux personnes handicapées. Ils compensent ou elles compensent avec un don. Et les activistes, d'ailleurs, ont dit... Nous, on ne veut pas apprendre à voler comme Bran, on veut juste une rampe qui donne accès au château. Ce qui est quand même très drôle. Et aussi, on aimerait des rôles ailleurs que dans des fantaisies médiévales, puisque voilà quoi.
Ouais, les personnes handicapées ne sont pas l'équivalent des dragons.
Non.
Donc merci.
Elles existent en vrai.
Ouais. Il y a aussi l'acteur Michael J. Fox de Retour vers le futur, qui lui a la maladie de Parkinson, qui est une maladie dégénérative depuis l'âge de 29 ans. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché, notamment, de jouer un très méchant avocat. Qui a la tremblote et qui marche avec une canne dans la série The Good Wife et qui n'hésite pas justement à se servir de sa condition pour essayer d'apitoyer les jurys de manière très perverse.
Now, before I ask you just a few questions, I think I probably owe you an explanation. I suffer from a condition, tardive dyskinesia, which is really, it's a funny word for a neurological disorder, and it makes me do this.
Il a aussi publié ses mémoires qui s'appellent Lucky Man, dans lequel il dit que sa maladie est un cadeau, même si elle lui prend beaucoup, qu'il reste quand même assez optimiste. Il pensait qu'aujourd'hui, on aurait trouvé un remède, mais ce n'est toujours pas le cas. Et malheureusement, il a arrêté sa carrière en novembre dernier.
On peut citer aussi dans The L World, et il fallait quand même que j'en parle, du personnage de Jodie, la meuf de Bette, qui est jouée par Marlee Matlin. L'actrice fut d'ailleurs la première personne sourde à gagner un Oscar, c'était en 1987. Et petit aparté, elle est sortie avec mon crush d'enfance.
Ah mon Dieu.
Richard Dean Anderson, alias MacGyver. J'étais déjà tellement une grosse Gwyn, mais bon.
On a les mêmes crushs, c'est bien.
T'as un autre exemple de bonne pratique ?
Oui, alors il y a la série anglaise Years and Years, une série d'anticipation dans laquelle un des membres de cette grande famille est en fauteuil, comme l'actrice qui la joue. C'est Ruth Madeley, qui a une spina bifida, et c'est pas le focus de la série, c'est juste un personnage tout à fait normal de mère de famille. Et d'ailleurs, le personnage n'était pas écrit comme un personnage handicapé, mais simplement, elle a passé l'audition comme tout le monde, et elle a eu le rôle, ce qui est très bien. On peut aussi citer Lauren Ridloff, qui est une actrice afro-américaine, qui va jouer une super-héroïne sourde dans le film Marvel Eternals, qui était censé sortir cette année, mais pour l'instant, rien n'est sûr. Mmh. Et en plus, il est réalisé par Chloé Zhao, qui est vraiment une super jeune réalisatrice qui monte. Donc, on est ravis.
Super. Gros changement d'ambiance, hein, mais il faut souligner cette bonne pratique bien franco-française. Dans la dernière saison de L'amour est dans le pré, un jeune agriculteur est en fauteuil, et franchement, ça n'a pas du tout été brandi comme un truc extraordinaire. Il n'y a pas eu de questions archi-gênantes comme il peut en exister par exemple pour des candidats gays. Pas de mièvre condescendance de la part de Karine Le Marchand. Bon, alors qu'on peut toujours s'attendre au pire venant d'elle, CF a déçu les audimates de M6.
Voilà, donc on ne regarde pas. À la place, on peut plutôt voir la saison 5 de la série Scam, dans laquelle un des personnages d'ado devient sourd et découvre cette communauté. D'ailleurs, il y a plusieurs acteurs sourds et sourdes comme Winona Guillon et Luca Wilde. Et tout un débat autour de l'implant cochléaire et de savoir s'il faut ou non faire partie du monde des entendants et des entendantes et tous les conflits de loyauté que ça peut engendrer.
C'est quoi le délire avec vos oreilles là ?
Ah, et bah ça c'est en soutien avec notre poteau Arthur qui est sourd.
Ah mais t'es sourd ?
Ouais. Mais j'entends très bien, hein, t'es pas obligé de crier.
Sur Netflix, il y a aussi une télé-réalité qui s'appelle Deaf You, qui suit des étudiants et des étudiantes sourds et sourdes dans une fac américaine qui s'appelle Galaudet. La série a quand même été critiquée parce qu'elle montre assez peu, voire même pas du tout, de femmes noires sourdes. On ne voit pas non plus les cours à l'université, et elle entretient une forme de fascination des personnes entendantes pour la langue des signes. Moi, j'ai trouvé ça néanmoins intéressant parce qu'on voit certaines tensions entre l'élite, donc qui sont des personnes sourdes qui ne se mêlent pas au monde des entendants et des entendantes, et d'autres personnes sourdes qui sont moins bien intégrées. Et sur la question du spectre autistique, on voit des personnes neuroatypiques de plus en plus à la télévision, dans la série israélienne On the Spectrum, sur Netflix dans Atypical.
I'm a weirdo, that's what everyone says. Sometimes I don't know what people mean when they say things.
Sam, people on the spectrum date, you know.
Girls don't really notice me at all, and I'm not great at picking up signals.
She's smiling right at you.
You need to turn that down, like,
70%.
Dans le spectacle d'Anna Gatsby, Nanette, et dans la série suédoise Love and Anarchy.
On a parlé d'elle tout à l'heure, Elisa Roras. On peut lire son roman Mr. T and Me, donc l'avocat activiste anti-validiste qu'on connaît bien sur Twitter a écrit dans ce roman-là l'histoire qu'elle a eue, qu'elle aurait pu avoir avec un certain Mr. T, un collègue dont elle est tombée amoureuse. La meuf lui fait une déclat, se prend un gros vent, d'ailleurs elle s'y attend, et ce vent se transforme au fil des pages en une formidable tornade, un peu comme le judo, quoi. On prend la force de l'autre, elle devient amplifiée.
Donc en amour, puisque c'est un des domaines où on construit beaucoup de fantasmes, je trouve ça passionnant d'essayer de comprendre d'où ils viennent. Et c'est vrai que c'était mon fantasme de jeunesse, c'était comme ça que je voyais l'homme idéal, et il se trouve que j'ai rencontré quelqu'un qui semblait lui correspondre, et en vivant cette expérience, qui a été une expérience difficile, avec des phases très différentes les unes des autres, ça m'a surtout... véritablement montrer ce que je voulais devenir, ce que je voulais faire et ce que ça signifiait d'être une femme handicapée dans une société à la fois patriarcale et à la fois validiste.
D'ailleurs, j'étais très touchée de voir que dans les inspirations d'Elisa Roras, il y a Hélène Keller, la meuf archi-badass qui était aveugle, sourde et muette par conséquence de sa surdité et qui a monté une école par et pour les personnes privées d'un de leurs sens. J'avais lu son livre quand j'étais petite, ça faisait partie de mes points cardinaux.
Qu'est-ce que tu kiffes ?
Qu'est-ce que t'écoutes ?
Les recommandations.
Qu'est-ce que t'as dans ta besace ?
Les recommandations
culturelles.
Qu'est-ce que tu lis ?
Les recommandations culturelles. De quoi de meuf ? Et alors, est-ce que t'as des recommandations culturelles cette semaine ?
Oui, j'ai le roman Division Avenue qui est sorti chez Bourgois. C'est l'histoire de Suri, qui est une femme juive orthodoxe de 57 ans, qui vit dans une enclave de Brooklyn. Et elle se découvre enceinte encore de jumeaux après 10 rejetons. Et s'ensuivent donc des questionnements autour de cette réalité-là, l'absence de choix ou la découverte qu'il peut peut-être y en avoir un de choix. Elle raconte aussi le fait que passé un certain âge, chez les acidiques comme ailleurs, on est une affaire classée, ce qui peut être triste pour des personnes non concernées par cette religion et très reposant pour quelqu'un comme elle. Son corps fait infraction à la règle de la mise au placard. C'est une écriture très sensible et belle, il y a beaucoup d'amour et l'autrice est très intéressante. Elle s'appelle Glody Goldblum. Elle a été convertie à l'acidisme Lubavitch, elle est australienne, et elle s'est mise à écrire des livres après la naissance de son 8e enfant. Elle considère qu'elle a fait le job, donc maintenant elle peut passer à une autre partie de sa vie. Elle est lesbienne et activiste des causes LGBT+, pour la communauté juive orthodoxe, donc quelqu'un d'extraordinaire.
Incroyable mélange des genres.
Et toi, qu'est-ce que tu nous conseilles ?
C'est une BD qui s'appelle Un bébé si je peux, qui est écrite et dessinée par Marie Dubois et publiée aux éditions Masso avec la revue 21. Et elle parle de l'infertilité féminine, qui est encore une question assez mal connue, ou assez taboue en tout cas. Elle découvre qu'elle a le SOPK, donc le syndrome des ovaires polykystiques, qui en fait est une des premières causes d'infertilité pour les femmes. Et donc avec son conjoint, ils essayent d'avoir un enfant. Et elle va passer par plusieurs PMA et FIV. Et donc, on suit tout son parcours médical et social, y compris avec sa famille, son cercle amical. On voit tous les conseils absolument nuls qu'on se permet de lui donner à propos de blocages psychologiques qu'elle aurait. Voilà, et toutes les difficultés qu'elle rencontre. Mais en tout cas, c'est très drôle et je vous le conseille.
Allô, monsieur l'ordinateur.
Quoi de meuf vous écoute ?
Une auditrice, Élise, nous a écrit. Elle aimerait avoir une recommandation de podcast qui permettrait d'améliorer la confiance en soi, l'estime et l'oubli de son corps.
Alors, on va recommander un peu la concurrence, hein, comme on n'est pas chiche. J'aime pas tellement le développement personnel de manière générale, mais j'aime bien la méthodologie de la TCC, donc des thérapies cognitives et comportementales. Et j'écoute souvent un podcast qui s'appelle « Change ma vie ». D'ailleurs, le générique me trotte souvent dans la tête. Il est animé par Clotilde Dussoulier, qui est coach, et qui s'attaque à chaque épisode à une question assez spécifique et à la petite mécanique cognitive que ça entraîne. Et donc, ça permet pour soi-même de faire des exercices. Parmi les thèmes, il y a l'indépendance émotionnelle, l'impression de surplace, le jugement, plaire aux autres, la comparaison. Enfin, je pense que tout le monde peut vraiment s'identifier à ces questionnements. Après, en ce qui concerne l'oubli du corps, je ne saurais pas trop quoi dire à ce sujet, si ce n'est qu'on a nous-mêmes fait un épisode sur le body positive avec toutes les réserves que ça implique. Et je recommande aussi le podcast de Jennifer Padjemi, Miroir, Miroir, chez Binge Audio. Et toi.
Moi, j'ai deux petits conseils. Il y a un épisode de Transfert qui s'appelle Trouver son propre mode d'emploi, qui est très très chouette. Et sinon, je trouve que ça fait toujours du bien d'écouter des pentes dans Les couilles sur la table. Et franchement, écoutez-le, réécoutez-le. Mm. C'est de l'énergie en barre, donc voilà, ça fait du bien.
C'est bon pour le moral. Bon, en tout cas, j'espère qu'on a un peu fait le tour de la question. Vous pouvez retrouver toutes les références dans les descriptifs de l'épisode. Vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux @quadmeuf et nous laisser des étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide à être référencés. Et quant à nous, on se retrouvera la semaine prochaine où on parlera justement de la série Scam. Merci. Salut Anne-Laure.
Salut.
Quadmeuf est une émission de nouvelles écoutes. Cet épisode est conçu et présenté par Clémentine Gallo.
Avec Anne-Laure Pinault.
Prise de son par Adrien Beccaria à l'arrière-boutique. Mixage Laurie Galigani. Générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux. Montage, réalisation et coordination Ashley Tola.